Vous croyez que le confinement pourrait tuer l'amour? Cette question finalement très contemporaine, Brel a dû se la poser il y a 40 ans dans son petit cabanon des Marquises. Sur place, moi je suis frappé par l'exiguïté des lieux. Bon, bien sûr, tout autour, il y a de quoi respirer entre cocotiers et végétation exubérante. Il n'en demeure pas loin que sa dernière compagne et lui ont dû affronter une certaine promiscuité. Mais ils avaient déjà résisté à celle de leur bateau parti pour un tour du monde écourté. On retrouve Madly et Brel.
Aux Marquises,
parfaitement intégrés à la vie quotidienne des habitants de l'île d'Ivaoa, Jacques et Madly y ont certainement coulé des jours heureux. On ne peut pas prétendre pour autant qu'ils aient manifesté pour les coutumes marquisiennes une curiosité d'ethnologue. Sans doute passaient-ils le plus clair de leur temps à se découvrir l'un l'autre à travers leurs activités communes.
Il faut être en mouvement. Je crois que si l'amour est statique, c'est plus de l'amour, c'est quelque chose qui reste, qui meurt finalement, parce que la vie, c'est l'action. Donc l'amour, c'est l'action. Si on vit, si on aime un être, il faut être en action. Donc il faut chaque jour modeler cette chose, modeler ses sentiments, ressentir l'autre en face et tout. Et puis là, tout en finesse, tout le temps. Si jamais l'un s'arrête de bouger, c'est fini, puisqu'il y en a un qui dépasse l'autre.
Un personnage aussi tourbillonnant que Jacques Brel n'était peut-être pas toujours facile à pratiquer au quotidien. Et quand on est une femme, comment exister vraiment aux côtés d'une vedette adulée des foules? Pour Jean-Michel Deligny, l'un des amis du couple que nous avons retrouvé à Tahiti, cette situation ne perturbait guère Madly, la dernière compagne de Brel.
J'irais même jusqu'à dire que c'était Madly qui avait pris le... qui avait dans une certaine mesure pris le dessus. Mais bien sûr, ils étaient très unis, pensant le même sens, la même envie de faire les mêmes choses ensemble. Pour moi, il n'y a aucun problème.
On peut tout de même supposer, connaissant l'un et l'autre, que Jacques était le Pygmalion de Madly, plutôt.
Oui, bien sûr. Mais elle était là. Contrairement à beaucoup de vedettes que j'ai connues qui avaient de jeunes et jolies personnes avec eux, qui étaient vraiment la cinquième roue du carrosse, c'était soit belle et tais-toi. Elle, c'était pas tout à fait ça, hein. Fallait pas lui en compter, fallait pas. Ils s'étaient connus sur le tournage de L'aventure, c'est l'aventure. Et puis, Madly est une fille fantastique. Elle est marrante comme tout, elle apporte de la gaieté. Nous, à chaque fois que, bon, maintenant, elle revient rarement, hélas, en Polynésie, mais à chaque fois qu'elle vient, elle vient nous dire un petit bonjour, on est tout à fait ravis. Et il n'y a pas. Elle n'est pas tombée. Le couple n'est pas tombé dans le panneau de ce que l'on voit accessoirement habituellement, à savoir, on invite Jacques Brel, bon, il y a un tel avec lui, c'est pas grave. Là, on invitait Jacques et Madly. C'était les deux. C'était pas un qui avait l'autre à la remorque.
Lui, il avait sa chose à dire, ses choses à faire, et moi aussi. Et lui, comme de toute façon, je n'avais pas suivi son cheminement et tout, donc je découvrais ce qu'il me racontait. Donc, on était au même niveau. Ce qui est intéressant dans notre rencontre, c'est qu'on n'a pas rencontré d'artiste, même si on était sur un film. On s'est quand même rencontré à un moment, un homme et une femme. C'est-à-dire, avant qu'on commence à travailler, on a eu un choc. C'est-à-dire que je n'avais pas vu jouer, il ne m'avait pas vu travailler, et on s'était rencontré avant le début du film, j'ose dire.
Oui, c'est un coup de foudre de ma femme.
Moi,
mais pas
descendais de l'avion, et lui était au pied de l'avion, et il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Bon, donc, en fait, on s'est rencontré entre homme et une femme. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas d'artiste qui compte, là. Il y avait pas. Puis moi, je ne suis pas fan de ceci, fan de cela, machin truc. J'aime bien le travail d'un tel ou des choses comme ça, mais de là, me coucher par terre, parce que là, non.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimiez pas dans le répertoire de Jacques, par exemple ?
Il y avait des orchestrations que je n'aimais pas, puis je lui disais, et c'était très bien pour lui, parce que il avait besoin aussi d'avoir... Par exemple, François Robert et Georges Joannès faisaient ce genre de travail que de lui dire qu'ils aimaient cette chanson-là ou pas et tout. Je crois que c'est important pour un artiste de lui dire gentiment, moi je préfère ça ou ça ou ça. C'est... Puisque l'artiste offre quelque chose, donc on peut plus ou moins aimer ceci ou cela.
Mais ça n'enlève rien à sa valeur.
Ça n'enlève rien à sa valeur. Et par exemple, je trouvais des orchestrations, je disais, complètement mièvre là, je dis ça c'était tout au début, je crois c'était l'époque de pop, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait des trucs vraiment, et je dis à une fille qui chantait un moment dans une chanson, je dis ça, oh, vraiment c'est mièvre, ça n'a pas de sens.
On sait les artistes souvent vulnérables aux critiques. Lorsque Jacques Brel se mettait à écrire et composer dans son petit bungalow polynésien, acceptait-il volontiers les remarques de Madly sur sa création ?
Oui, oui, parce qu'il venait me proposer les textes. Il me disait « Qu'est-ce que tu penses ?» Alors, à mon œil, il disait « Bon, ben je retourne dans mon bureau tout à l'heure !» Ou alors, s'il voyait mon œil bouger, ah bon, ça va. Alors, bon. Il retournait aussi dans son bureau, continuait, mais d'une autre façon. Il était très. Il avait beaucoup de pudeur. Donc, la première fois qu'il voulait commencer à travailler, bon, il a dit bon, ça y est, je vais commencer à travailler. Alors, tu sais, il faudrait peut-être que tu ailles un petit peu te promener parce qu'il n'était pas sûr du tout de ce qu'il allait faire. Et donc, il avait la pudeur de faire ça devant moi, comme le trac, quoi. Il avait le trac. Alors, je dis, bon, d'accord, pas de problème. Et comme à ce moment-là, il y avait encore, justement, deux journalistes belges qui étaient par là et qui cherchaient des reportages à faire, il me dit, bon, ben, tu vas les emmener se promener, voir un petit peu par là si on y était. Bon, ok, je les emmène voir un peu le paysage, faire le truc. Puis moi, je dis, pour composer, quand même, il faut un certain temps. Alors, je laisse passer une heure, je regarde ma montre et tout. Comme je sais, en plus, qu'il me courait après tout le temps, que dès que j'étais pas là, 5 minutes, il m'appelait. Mais je dis, bon, bah, tant pis, s'il veut composer, tant pis. Alors, je vais attendre 5 minutes, j'attends une heure à 15. Et puis, au bout de 2 heures, la furie le prend. Mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais je dis, mais tu vas aller me promener. Je vais me promener. Mais tu te rends pas compte, ça fait 2 heures que tu es parti.
Voilà que tu reviens.
Avec Madly, moi je n'ai jamais vu personnellement deux êtres s'aimer autant.
Marc Bastard, le confident privilégié de Brel aux Marquises.
Ils ne se quittaient pas, alors la main dans... Mais ils étaient tout seuls, la main dans la main, qu'il y ait des gens, qu'il y ait du monde, qu'il y ait personne, la main dans la main. J'ai l'impression qu'il s'accrochait à elle, c'était son tuteur. Puis alors, dès que Madly, souvent, je la voyais souvent sur le quai Taoku, parce que je ne sais pas, ils avaient commandé des choses qui arrivaient par les ouettes, mais dès qu'elle n'était pas là... Il était perdu. Et ça, souvent, on me dit, mais il faut que je rentre parce que Jacques va s'inquiéter. J'ai l'impression qu'effectivement, elle lui a tenu la main jusqu'au bout. Hein, il s'adorait. Moi, j'ai jamais vu deux êtres s'adorer autant. Dans ma vie, j'ai vu pas mal de gens, mais j'ai vu des gens qui s'aimaient, mais à ce point-là, c'était... Et alors, c'était toujours de gentillesse totale. Il n'y a jamais... Enfin, quelquefois, la discussion, c'était toujours une plaisanterie. Quand ils n'étaient pas d'accord sur le jeu, c'était toujours une plaisanterie, mais jamais, jamais un mot, non seulement méchant, mais un mot désagréable, rien du tout. C'était toujours la gentillesse totale. Et ça, il s'adorait, ça, il faut reconnaître qu'il s'adorait. Il m'a raconté ce qu'il n'a pas pardonné aux Flamands. C'est pour qu'elle était si dure, et que, pourtant, il est Flamand. C'est que vous savez, les Flamands sont racistes, et du fait qu'ils soient avec une femme de couleur, il dit. On ne la voyait pas. Alors ça, il n'a jamais pardonné. Il a été très dur avec les Flamands. Il les traite de tous les noms dans ses chansons.
Les Flamingants, chanson comique.
C'est vrai que Jacques chante au second degré.
Oui.
Et beaucoup de gens prennent au premier degré. Oui. L'exemple type, c'est « Ne me quitte pas ». Alors tout le monde dit « C'est la chanson superbe d'amour ». Je suis désolée pour tous les amoureux de cette chanson-là. en tant que chanson d'amour, ce n'est pas une chanson d'amour, c'est une anti-chanson d'amour. Ça veut dire que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il ne faut pas ramper comme ça devant un homme, il ne faut pas, devant un homme ou une femme, il ne faut pas se plier comme ça, il ne faut pas être une carpette, il ne faut surtout pas le faire. Parce qu'il avait autour de lui, c'est-à-dire cet exemple de Ne me quitte pas, c'était surtout une personne dont il m'a parlé, mais je ne vais pas le dire pour ne pas la Et puis, bon, c'était un ensemble de personnages comme ça qu'il avait groupé là-dessous, parce qu'il avait vu des gens qui ne pouvaient rien faire sans demander à leur femme, pardon, est-ce que je peux faire ci ou est-ce que je peux faire ça et tout. Et c'était le côté de... Bon, même si Jacques ne voulait pas que je m'en aille et tout ça pour faire quelque chose, parce qu'il avait, il ne voulait pas notre séparation et tout ça, mais si jamais il a fallu que je parte, il n'aurait pas...
Il ne se serait pas plié en rampant.
Il aurait été... Bon, il aurait peut-être pleuré dans son coin, je ne sais pas, moi dans mon coin, je ne sais pas, mais il n'aurait pas fait ce genre de choses. Il me dit, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il me dit, te rends compte à quel point on peut... Et il l'avait vu faire, et moi je l'ai vu faire aussi dans la vie, donc je savais que ça existait, ça, c'était pas un problème. Il me dit, ce n'est pas une chanson d'amour, c'est une anti-chanson d'amour.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
En fait, il est tellement bon comédien aussi dans son interprétation. Il donne tellement la chose. Et comme cette personne-là se pliait... Vous savez, quand vous sentez « Ne me quitte pas », regardez-le bien. Il y a une sorte de pleurs et de choses qui dégringolent comme ça.
Qui se répand.
Et c'est, en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais il était tellement bon. C'est comme dans L'Emmerdeur, par exemple. Il s'embêtait un peu sur ce film, un peu honnêtement, parce que ça bougeait pas trop et tout. Ouais. Je m'excuse, tous ceux qui ont fait le film. Enfin, c'était un peu ça, parce que enfin, moi, c'est ce que je sais de l'intimité.
Il n'était pas très à l'aise dans ce film.
Il faisait ça. Et puis, il a carrément commencé à débloquer complètement. Et il a fait youpi dans le film pour que ça bouge un peu, parce qu'il s'ennuyait un peu sur le tournage, comme ça. Et puis, après, le film est sorti. Puis, tout le monde a dit, c'est formidable ce film et tout. Et lui, il était furieux. Alors moi je rigolais parce que quand même la première, je rigolais parce que c'était drôle parce que c'est le clown qui fait tout le temps quand il faisait le clown comme ça, il me donnait... c'est pas drôle du tout, il me disait, il faut pas rire, c'est pas drôle. J'ai dit mais si c'est drôle, j'ai dit quand même t'es drôle, j'ai dit de toute façon c'est toi qui fais le couillon sur l'écran, c'est drôle, c'est quand tu t'amuses. C'est... Mais il avait donc il était obligé de jouer ce jeu-là et en fait il n'était pas satisfait. Puis en plus il n'était pas satisfait du titre surtout. Puis en plus, s'il m'écoute, il sait bien que c'était rigolo de toute façon. C'est vrai que bon, ça, c'est sur le coup, c'était, il avait tous les trucs, toutes les histoires du film qui lui restaient,
mais
ça bousculait un peu les choses. Mais en fait, il était drôle parce que il a tout ce qu'il faisait dans le film, c'est tout ce qu'il faisait dans la vie pour me faire rire ou pour faire rire les copains et tout. Donc, il était donc très drôle.
Je crois que les gens n'ont pas idée de l'aspect comique de Brel, parce qu'il l'a développé seulement dans certaines chansons, comme Les Bonbons, ou enfin
des bonbons. Les Bonbons, voilà. Le Général Casse-Pompon, le Gaz.
Enfin,
tout
quand
ça
même, on a
d'humour.
Plutôt une idée tragique du personnage.
Et, ou oui,
du... Et alors qu'il était tout le contraire dans la vie.
Écoutez, je peux regarder des photos de Jacques, même jeune, je suis sûre de 12, 13 ans et tout, et des photos de 25, 30 ans, et des photos de 40 ans, à l'époque où je l'ai rencontré, et des photos de 45 ans, 40 devant, même la veille de son départ à l'hôpital chez le professeur Israël, il fait les mêmes clowneries, il a toujours fait des clowneries, et dès qu'il se levait le matin, à la première seconde, il faisait des clowneries. C'est quelqu'un qui riait tout le temps, et il éclatait de rire, il disait « Ah, c'est bon rire !» Alors il avait sa grande bouche comme ça, qui faisait des grands éclats de rire, et il riait tout le temps. Et alors, dès que les gens parlent de Jacques, il y a le côté commisération, et c'est ça, alors que moi, je n'ai connu que quelqu'un qui rit.
Au prochain épisode, la maladie, un défi pour Brel.
Aux marquises.